Bonsoir tout le monde. La séance est en audioconférence seulement. Donc, je vais nommer les personnes présentes à cette séance. Vous me dites présent. Joachim La Rochelle-Courchain.
Présent.
Annie Neveu.
Présente.
Roxane Perrault.
Présente.
Frédéric Bourgeois.
Présent.
Éliane Neveu.
Présente.
Jean Lemieux.
Présent.
C'est bien. Alors, l'ouverture de la séance, je constate le quorum, donc on peut commencer la séance. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour?
Propose.
Roxane, qui seconde?
Secondé.
Qui est-ce qui a secondé?
Je peux seconder.
1.3, c'est la tenue des séances sans la présence du public. C'est que les mesures de santé publique ordonnent depuis le 20 décembre dernier. Ils nous obligent à faire nos rencontres par audioconférence et nous décidons de les faire à huis clos. Ça me prend-tu un proposeur et un secondaire, non?
Oui.
Oui, bon. Qui propose que les séances se fassent à huis clos?
Propose Annie.
Annie? Annie, qui seconde?
Seconde Fred.
Fred. Tout le monde est d'accord?
Oui.
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 OK. 1.4, c'est l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 décembre 2021 et des séances extraordinaires du 15 décembre 2021, du 20 décembre 2021 à 19h et du 20 décembre 2021 à 19h30. Alors, qui propose l'adoption des procès-verbaux de ces trois séances-là?
Propose.
Jean, qui seconde?
Secondé Fred.
Fred. Ça va pour les autres?
Oui. Oui. Oui.
1.5. C'est Jean qui va partir, je pense, avec ça, non? Oui.
Oui.
C'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 810-2022 concernant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie pour les membres du conseil municipal et abrogeant le règlement 767-2018. Alors, Jean va présenter le projet de règlement. Vas-y, Jean.
Oui, ça fait long. Je vais me pointer sur le document. OK, règlement, projet de règlement 810-2022 concernant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie pour les membres du conseil municipal et abrogeant le règlement 767-2018. Attendu, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale ayant pour effet d'assurer l'adhésion explicite des membres de tout conseil d'une municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d'éthique, de prévoir l'adoption des règles de déontologie et de déterminer des mécanismes d'application et de contrôle de ces règles. Attendu qu'une élection générale s'est tenue le 7 novembre 2021, attendu que l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale concernant l'obligation d'adopter un code d'éthique et de déontologie révisé avant le 1er mars suivant de toute élection générale qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Attendu l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, laquelle modifie le contenu obligatoire du code d'éthique et de déontologie des élus. Attendu que la municipalité de Saint-Ambroise-et-Culdaire doit se conformer à la dite loi. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Ambroise-et-Culdaire, tenue le 17 janvier 2022. En conséquence, sur la proposition 2 et appuyée par, il est unanimement résolu par les membres du Conseil que le règlement 810-2022 soit adopté et qu'il soit décrété ce qui suit. Préambule. Le préambule du présent règlement fait partie intégrante. 2. Présentation 2.1. Le présent code d'éthique et de déontologie des élus municipaux est adopté en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité, à la municipalité. La loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale est de diverses dispositions législatives. 2.2. En vertu des dispositions de ces lois, toute municipalité doit adopter un code d'éthique et de déontologie des élus municipaux en vue d'assurer l'adhésion explicite des membres de tout conseil d'une municipalité aux principes, aux principales valeurs de celle-ci en matière d'éthique et de prévoir l'adoption de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d'application et de contrôle de ces règles. 2.3. Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncés dans ce code d'éthique et de déontologie sont l'intégrité des membres du conseil de la municipalité, l'honneur rattaché aux fonctions du membre du conseil, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect et la civilité envers les autres membres du conseil de la municipalité, les employés et les employés de celle-ci et des citoyens, citoyennes et citoyens. La loyauté envers la municipalité, la recherche de l'équité. Les valeurs énoncées dans le code d'éthique et de déontologie doivent guider toute personne à qui s'applique dans l'appréciation des règles déontologiques qui y sont applicables. 2.5. Les règles prévues au présent code d'éthique et de déontologie ont pour objectif de prévenir notamment toute situation ou intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions. Toute situation qui irait à l'encontre de l'article 304 et 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. Toute inconduite portant atteinte à l'honneur et à la dignité de la fonction d'élu municipal. 2.6. Règles de conduite et interdiction. Le membre du conseil doit se conduire avec respect et civilité. Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon irrespectueuse ou incivile envers les autres membres du conseil municipal, les employés municipaux ou les citoyens par l'emploi, notamment de paroles, d'écrits ou de gestes vexatoires, dénigrant ou intimidant ou de toute forme d'incivilité de nature vexatoire. 3. Interprétation. Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme suit. Avantage. Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification, marque d'hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte ou toute autre chose utile ou profitable de même nature ou de toute promesse d'un tel avantage. Intérêt personnel. Intérêt de la personne concernée, qu'il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct sans nécessairement être exclusif de celui-ci du public ou en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. Être exclu de cette notion, le cas où l'intérêt personnel consiste des rémunérations, des allocations, des remboursements, des dépenses, des avantages sociaux ou d'autres conditions de travail rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la municipalité ou de l'organisme municipal. Intérêt des proches, intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt d'une société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle entretient une relation d'affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui-ci du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. Organisme municipal, un organisme que la loi déclare mandataire ou agent de municipalité, un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d'une municipalité, un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci. Un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé d'examiner ou d'étudier une question qui lui est soumise par le conseil. Une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une personne est désignée ou recommandée par la municipalité pour y être représentée son intérêt. Champ d'application. Le présent code s'attribue à tout membre du conseil de la municipalité. Conflit d'intérêts. Toute personne doit éviter de se placer sciemment dans une situation où elle est susceptible de devoir faire un choix entre, d'une part, son intérêt personnel ou celui de ses proches et, d'autre part, celui de la municipalité ou d'un organisme municipal. Le cas échéant, elle doit rendre publique ses situations et s'abstenir de participer aux discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. Sans limiter la généralité qui précède, il est interdit à toute personne d'agir, de tenter d'agir ou d'omettre d'agir de façon à favoriser, dans l'exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre personne. En vertu des articles 101 et 102 de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique, il est interdit aux membres du conseil municipal ainsi qu'aux employés et aux employés de la municipalité de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. De plus, les élus municipaux doivent prendre les mesures nécessaires pour que leur personnel de cabinet respecte l'interdiction. En cas de non-respect de cette interdiction, les élus sont imputables et peuvent faire l'objet de sanctions. 4.2 Avantage. Il est interdit à toute personne d'accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-même ou pour autre personne en échange d'une prise de position sur une question dont le conseil, un comité ou une commission dont elle est membre peut être saisie. D'accepter tout avantage qui peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200$ et qui n'est pas de nature purement privée ou visée par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 30 jours de sa réception, produire une déclaration écrite au greffier ou au greffier trésorier de la municipalité contenant une description adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les circonstances de sa réception. Il est interdit aux membres du conseil municipal d'accepter tout don, quelle qu'en soit la nature ou la valeur, de tout fournisseur de biens ou de services. 4.3 Discrétion et confidentialité. Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu'après celui-ci, d'utiliser, de communiquer ou de tenter d'utiliser ou de tenter de communiquer des renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 4.4 L'utilisation des ressources de la municipalité. Il est interdit à toute personne d'utiliser ou de permettre l'utilisation des ressources, des biens ou des services de la municipalité ou des organismes municipaux à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l'exercice de ses fonctions. 4.5 Respect du processus décisionnel. Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes de la municipalité et des organismes municipaux relatifs aux mécanismes de la prise de décision. 4.6. Obligation de loyauté auprès mandat. Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son mandat dans le respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit d'utiliser ou de divulguer des renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance durant l'exercice de ses fonctions. Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne dans les 12 mois qui suivent la fin du mandat d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu'elle-même ou toute autre personne tire avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d'un conseil de la municipalité. 5. Sanctions. Conformément aux articles 7 et 31 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, un manquement au présent code d'éthique et de déontologie visé par un membre du conseil d'une municipalité peut entraîner l'imposition des sanctions suivantes. 1. La réprimande. 2. La remise à la municipalité dans les 30 jours de la décision de la commission municipale, petit A, du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu de la valeur de celui-ci, petit B, de tout profit retiré en contravention d'une règle énoncée dans le code. 3. Le remboursement de toute rémunération, allocation et autres sommes reçues pour la période qui a duré le manquement à une règle prévue au code comme membre du conseil d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou d'un organisme. 4. Une pénalité d'un montant de 4 000 $ devant être payée à la municipalité. 5. Suspension du membre du conseil pour une période dont la durée peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat. Lorsqu'un membre du conseil est suspendu, il peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d'un conseil de la municipalité, d'un autre organisme, ni recevoir aucune rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d'un tel organisme. 6. Remplacement. Le présent règlement remplace le règlement 767-2018 édictant un code d'éthique et de déontologie des élus adopté le 3 décembre 2018. Toute mention ou référence à un code d'éthique et de déontologie des élus, que ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, etc., est réputée faire référence au présent règlement. Entré en vigueur, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
C'est bon.
C'est bon, Jean.
Merci.
Donc, Jean, tu proposes le l'avis de motion?
Oui, je propose.
Je veux dire, tu donnes l'avis de motion, oui?
Oui.
OK.
Ah, c'est juste un avis de motion. C'est beau.
Oui, c'est ça. OK. 2.1, c'est l'approbation des comptes à payer. Les comptes pour le mois sont de 1 439 261,65 $. Alors, qui propose?
Propose Annie.
Annie, qui seconde?
Secondé. Jean.
Ça va pour les autres? C'est correct pour les autres?
Oui.
2.2, c'est l'Office municipal d'habitation de Saint-Laurent-de-Kildare. C'est l'approbation du budget 2022. Le gouvernement provincial paie 90 % du déficit et la municipalité paie 10 %. Ça a tout le temps été comme ça, qui représente un montant de 6 155 $ pour l'année 2022. Qui propose l'approbation du budget 2022?
Je propose. Ah. Roxane.
Je vais seconder Roxane.
OK. C'est Roxane et Liane, c'est ça?
Exact.
OK. C'est bon pour les autres, oui?
Oui. Oui.
OK. 2.3, c'est nomination d'un représentant au conseil d'administration de l'Office d'habitation au cœur de chez nous. C'est l'Office d'habitation des... C'est notre Office d'habitation fait maintenant partie d'un regroupement d'offices d'habitation à l'intérieur de la MRC de Joliette. Et cet office s'appelle au cœur de chez nous. Et nous avons un représentant nommé par le conseil municipal qui y siège. Nous désirons pour les prochaines années nommer M. Gilles Perrault. Alors, ça me prendrait un proposeur.
Je vais te proposer, Fred.
Fred, qui seconde?
Seconde, Roxane.
Okay, Roxane. Ça va être Gilles qui va être... Urbanisme et la valeur du territoire. Là, c'est 3.1. C'est des avis de motion, des adoptions de projets de règlement. 811-2022, 812-2022. 813-2022. C'est jusqu'à 813, c'est ça?
814 aussi.
814-2022. Donc, Jean va faire il va faire un petit résumé des avis de motion, des règlements. Puis, je pense que il va proposer, puis ça va prendre un secondaire, mais pour le 811 jusqu'à 814, le conseil est d'accord à ce que le proposeur soit tout le... Bien, c'est le même, c'est sûr, mais le secondaire, puis ensuite de ça, on continuera avec le 815. Fait que 3.1, c'est l'avis de motion du règlement 811-2022, modifiant le règlement de zone nord 390-1991, ayant pour effet de modifier l'article 17.2 sur les pénalités. Jean?
Oui, je commence. Projet de règlement 811-2022, 812-2022, 813-2022 et 814-2022. Modifiant le règlement de zonage 390-1991, le règlement de lotissement 391-1991, le règlement de construction 392-1991, ainsi que le règlement sur les permis et certificats 393-1991, ayant pour effet de modifier les articles 17.2 du règlement 390-1991, l'article 8.2 du règlement 391-1991, de l'article 8.2 du 392-1991 et 13.2 du 393-1991 sur les pénalités. Le règlement 811-2022, 812-2022, 813-2022 et 814-2022 prévoit, article 1, que le préambule fasse partie intégrante du règlement. Article 2, il y aura modification des pénalités dans le règlement de zonage, de lotissement, de construction ainsi que de permis et certificats. L'article se lit comme suit. Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction. Toute personne qui commet une infraction est passible d'une amende minimale de 300 $ pour une personne physique jusqu'à un maximum de 1 000 $ et de 500 $ pour une personne morale jusqu'à un maximum de 2 000 $. Article 3, entrée en vigueur. À toi, Michel.
Mon micro, Michel.
Excusez. Bon, Jean, tu as donné les avis de motion.
Oui.
Puis les adoptions de projet aussi. Ça va prendre des secondaires pour adopter les règlements 811-2022, 812-2022, 813-2022 et 814-2022. Qui est seconde de Jean?
Seconde.
Jean-Prochain,
OK. Oui.
OK.
Bon. Okay. 3.9, c'est l'adoption du premier projet de règlement 815-2022, modifiant le règlement de zonage 390-1991, ayant pour effet de modifier les usages permis dans la zone 1R20 afin de permettre seulement les habitations unifamiliales. Jean?
Oui. Projet de règlement 815-2022 modifiant le règlement de zonage 390-1991 ayant pour effet de modifier les usages permis dans la zone ER20 afin de permettre seulement les habitations unifamiliales. Le règlement 815-2022 prévoit, à l'article 1, le préambule fasse partie intégrante, article 2, la modification de la grille des usages et des normes 1R20. Article 3, entrée en vigueur de, selon la loi, annexe A, les habitations unifamiliales isolées et les habitations unifamiliales jumelées seulement seront autorisées. Les habitations multifamiliales ne seront plus autorisées. J'ai fini, Michel.
C'est bien. Alors, Jean, tu proposes, c'est sûr?
Oui. Second.
Second.
Qui c'est? Joachim. OK. 3.10. Adoption du premier projet de règlement 816-2022, modifiant le règlement zonage 390-1991, ayant pour effet de permettre, sous certaines conditions, les projets intégrés résidentiels dans les zones 1C22 et 2C11. Donc, Jean?
OK. Projet de règlement 816-2022, modifiant le règlement de zonage 390-1991, ayant pour effet de permettre, sous certaines conditions, les projets intégrés résidentiels dans les zones 1C22 et 2C11. Il y a eu au moins une demande pour construire plusieurs bâtiments principaux résidentiels sur un même terrain dans les zones mentionnées. Alors, nous avons entrepris de modifier les règlements de zonage afin de permettre les projets intégrés résidentiels. Le règlement 816-2022 prévoit, à l'article 1, que le préambule fasse partie intégrante du règlement. Article 2, modification des grilles des usages et normes 1C22 et 2C11 à l'annexe B. Article 3, le règlement permettra de les projets intégrés résidentiels dans les zones 1C22 et 2C11. Il y aura des normes d'implantation et de volumétrie afin de créer des milieux de vie convivial, dont notamment chaque bâtiment principal peut avoir un maximum de 4 logements et que le nombre d'étages est limité à 1 étage. Dans la bande d'une profondeur de 25 mètres de long, et à 2 étages pour le reste du terrain. Il devrait y avoir l'aménagement de zones tampons avec écrans protecteurs comprenant des végétaux. L'implantation d'une aire de stationnement pourrait être située dans les marges et les cours latérales et à l'arrière seulement. Le stationnement doit comprendre au moins 2 cases par logement. En plus, il devrait y avoir une case de stationnement par 10 logements dédiés pour les visiteurs. La gestion des matières résiduelles doit se faire par conteneur à déchets semi-enfouis. Le conteneur à déchets semi-enfouis peuvent se trouver à l'avant et des normes sont prévues pour leur accès et leur vidange. Article 5, entrée en vigueur. Annexe A, il y aura 2 modifications aux grilles des usages et normes. Petit point, il y aura ajout de l'article 8.16.13 qui encadre les projets intégrés résidentiels. Deuxième point, il y aura ajout de la note C, un maximum de 4 logements par bâtiment principal et permis. D'accord, Michel?
Bon, OK. Avec, Jean, tu le proposes. Qui se ronde?
Bon, Annie.
Annie? OK. Ça va pour les autres, oui?
Oui.
Oui.
Oui, ça va.
OK. 3.11, c'est un avis de motion puis une adoption pour le projet. C'est le règlement 817-2022 modifiant le règlement 799-2021 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA. PIIA, ayant pour effet d'ajouter les zones 1C22 et 2C11. Alors, Jean?
Oui. Projet de règlement 817-2022 modifiant le règlement 799-2021 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, excusez-moi, PIA, ayant pour effet d'ajouter les normes 1C22 et 2C11. Le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Oui, le PIA doit être modifié afin d'encadrer le projet intégré résidentiel dans les zones 1C22 et 2C11. Le règlement 817-2022 prévoit à l'article 1 que le préambule fasse partie intégrante du règlement. Article 2, il sera permis de faire des projets intégrés résidentiels dans les zones 1C22 et 2C11. Article 3, il y aura ajout à l'article 36 dans les règlements sur les plans d'implantation et d'intégration du PIA. Cet article définit les objectifs et les critères d'évaluation d'un projet intégré résidentiel pour les zones 1C22 et 2C11. Il permet au comité consultatif d'urbanisme d'analyser un projet déposé et de faire une recommandation au conseil municipal sur les 8 objectifs établis. Premier objectif, améliorer le paysage de la rue par des implantations, volume, hauteur et gabarit qui s'intègrent au contexte et encadrent harmonieusement l'espace public. 2. Intégrer l'agrandissement au corps principal du bâtiment en suivant le style architectural d'origine. 3. Privilégier la construction de bâtiments avec des typologies et des implantations variées. 4. Préconiser la qualité architecturale et esthétique et fonctionnelle des projets. 5. Assurer l'intégrité de nouveaux bâtiments principaux et des agrandissements et de certains éléments architecturaux au voisinage immédiat. 6. Prévoir des aménagements qui accroissent le verdissement en préservant les arbres matures tout en réduisant les îlots de chaleur. 7. Localiser et aménager des aires de stationnement de manière à minimiser leur impact visuel. 8. Planifier l'aménagement des espaces extérieurs et des lieux de circulation pour les rendre conviviaux et favoriser le déplacement actif. Article 4. Modification du plan de zonage par l'ajout des zones 1C22 et 2C11. Article 5. Entrée en vigueur.
Il est 20h.
Annexe A, plan de zonage modifié. Toi, Michel?
C'est bon. Alors, tu donnes l'avis de motion, puis proposes le projet. Qui seconde?
Je seconde Roxane.
Roxane, OK. Ça va pour les autres?
Oui.
Oui.
OK. OK. J'espère que je vous voyais pas, fait que je veux savoir si vous ne dormez pas, là. OK. Bon, OK. 3.13, c'est l'adoption du premier projet de règlement 818-2022, modifiant le règlement de zonage 390-1991, ayant pour effet de modifier les usages permis dans les zones 1I18-1 et 2C08. Alors, Jean?
Oui. Projet de règlement 818-2022, modifiant le règlement de zonage 390-1991, ayant pour effet de modifier les usages permis dans les zones 1I18-1 et 2C08. Le règlement 818-2022 prévoit, à l'article 1, le préambule fasse partie intégrante. Article 2, la modification de la grille des usages et normes 1I18-1 et 2C08. Article 3, les usages permis en termes d'habitation seront restreints à un maximum de 4 logements par bâtiment principal dans les zones 1I18-1 et 2C08. Article 4, entrée en vigueur selon la loi. Article annexe A, il y aura l'ajout de note E. Un maximum de 4 logements par bâtiment principal est permis. À toi, Michel.
Merci. Fait que, Jean, tu proposes le... Oui. Qui seconde, Jean?
Secondé, Fred.
Fred, OK. 3.14, c'est adoption du projet du premier projet de règlement 819-2022, modifiant le règlement du zonage 390-1991, ayant pour effet de modifier les usages permis dans les zones 1C13, 1C14, 1C16, 1C17, 1C19, 1I18, 2, 2C07 et 2C09. Alors, Jean?
Oui. Projet de règlement 819-2022, modifiant le règlement de zonage 390-1991, ayant pour effet de modifier les usages permis dans les zones 1C13, 1C14, 1C16, 1C17, 1C19, 2C07 et 2C09. Le règlement de 819-2022 prévoit, à l'article 1, le préambule fasse partie intégrante. L'article 2, la modification de la grille des usages et normes 1C13, 1C14, 1C16, 1C17, 1C19, 1I18-2, 2C07 et 2C09. Article 3, les usages permis en termes d'habitation seront restreints à un maximum de 12 logements par bâtiment principal dans les zones 1C13, 1C14, 1C16, 1C17, 1C19, 1I18-2, 2C07 et 2C09. Article 4, entrée en vigueur selon la loi, annexe A, il y aura un ajout de la note E, un maximum de 12 logements par bâtiment principal est permis dans les zones 1C13, 1C14, 1C16, 1C17, 1C19, 1I18-2, 2C07 et 2C09. Michel?
Bon, OK, Jean, il propose le projet de règlement.
Oui.
819-2022, qui seconde?
Seconde, Annie.
Annie, OK. Ça va pour les autres?
Oui.
Oui.
OK. Merci, Jean. Tu peux te gargariser un peu, là, mais la lecture. 4.1, c'est coordonnatrice de la bibliothèque, modification au contrat de travail. Nous prévoyons au cours de l'année 2022 augmenter les heures d'ouverture de la bibliothèque au public, faire divers autres projets, et pour cela, nous avons besoin d'augmenter la présence de la coordonnatrice à la bibliothèque, passant de 24 heures à 30 heures pour d'ouverture, donc 6 heures de plus par semaine. Alors, qui propose une augmentation des heures?
Je propose Eliane.
Je seconde Roxane.
Roxane. Ça va pour les autres?
Oui.
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 Merci. 4.2, c'est le prolongement de la piste cyclable. C'est une étude environnementale de phase 1. L'octroi du contrat, c'est que le ministère de l'Environnement nous demande une évaluation environnementale de site phase 1. Cette étude permet d'identifier les sources potentielles de contamination pouvant affecter l'état du site en question, donc la piste cyclable pour nous. Alors, ça me prend un proposeur.
Proposer Fred.
Fred?
Seconde.
Jean. Ça va pour les autres?
Oui.
Okay. 4.3, oui. Et... Oui, hein?
Je peux te poser une question?
Oui, oui, vas-y.
C'est quoi que les contaminants, c'est quoi qui pourrait contaminer ou qu'est-ce qu'ils veulent dire par demander cette étude-là, maintenant?
Ben, en fait, ils vont vérifier s'il y a des contaminants possibles. Okay. Est-ce que il y a eu de l'huile, de l'essence? Est-ce qu'il y a eu des ordures? Et toutes sortes de choses.
OK, s'il y a eu ça sur notre piste, pas nous, qu'est-ce qu'on va faire si on va contaminer le lieu?
OK.
C'est ça, OK. Si le terrain a quelque chose de spécial à faire. Là.
Oui.
C'est ça.
OK.
Pour être sûr qu'il n'y a rien où la piste va passer, oui.
OK. Merci, ils vont prendre des échantillons, eux autres, tout le long du trajet qu'on prévoit.
Ben, ils vont peut-être faire aussi voir ce qui s'est passé antérieurement sur ces terrains-là.
OK. D'accord.
Merci. 4.3, c'est l'adoption de la tarification pour le soccer 2022. Nous venons de recevoir les tarifications pour le soccer et les inscriptions commencent en début février. Là, je sais pas si vous avez tous les prix et les catégories de ça, mais je les nommerai pas toutes de toute façon. Ceux que ça va intéresser, ils vont appeler la municipalité et ils vont le dire. Parce que la liste est quand même assez longue, là, mais même si je ne nommerai pas toutes les la tarification, c'est pas grave, mais c'est pour vous dire qu'on a reçu la tarification. 4.4, c'est l'adoption de la tarification pour le baseball 2022. Ici, c'est la même chose que le soccer. Nous venons de recevoir la tarification et les inscriptions commencent en janvier. Encore là, on a toutes les catégories avec les... Comment ça nous coûte pour Saint-Ambroise par catégorie?
Il faudrait faire des résolutions pour le soccer et le baseball.
Bon, OK. Fait que qui propose pour le soccer?
Je propose Eliane.
Eliane?
Seconde Annie.
Seconde? Annie, OK. Comme je dis, là, je vous le proposez seconder, ça, mais comme je dis, là, la tarification, on ne la nommera pas tout au complet, là, mais. Puis, qui
l'a propose?
OK. Pour le baseball 2022?
Je seconde. Je propose, Roxane.
Je seconde. Je seconde.
Ah, OK, Joachim. OK. Merci. Ça va pour les autres?
Oui.
Oui.
OK. 5.1, c'est la conception des plans et devis pour la réfection de 8 voies de circulation et le remplacement d'une conduite avec l'aqueduc ainsi que la surveillance des travaux dans le cadre de la TEC 2019-2023. Appel d'offres, nous avons eu une subvention importante pour nos infrastructures de rue et nous comptons l'investir et répartir sur 8 rues. La place Charles-Laporte, la rue des Œillets, la rue des Érables, la rue Johanna, la rue Préville, 7e avenue, 8e avenue et 10e avenue. Et avec cette résolution, nous demanderons des offres de prix à des firmes d'ingénierie pour la conception de plans et devis ainsi que la surveillance des travaux. Alors, qui propose la conception des plans et devis pour la réfection des 8 voies de circulation?
Proposé, frère.
Secondé, Jean.
Y a-t-il quelque chose pour le Varia?
Non, pour moi.
Non.
Non.
C'est bon pour tout le monde?
Oui.
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 Bon, ben, bonsoir, puis à la prochaine. Soyez ça.